La parole à Nathalie Arthaud.
Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. C'est la première rentrée sous un gouvernement socialiste depuis 10 ans. Mais elle ressemble comme 2 gouttes d'eau aux 10 rentrées précédentes. Augmentation du prix du gaz, fermeture d'usines et menaces de licenciement, conditions de travail de plus en plus dures. Il y a 5 mois, pour se faire élire, Hollande disait « Le changement, c'est maintenant ». Eh bien voilà qu'il nous explique aujourd'hui que le changement n'est pas pour tout de suite et qu'il va falloir attendre au moins 2 ans pour que le pays se redresse. Le voilà qu'il nous explique qu'il faudra 2 ans d'efforts et de sacrifices avant d'envisager quelques progrès que ce soit, parce que c'est la crise, que les déficits sont insoutenables et qu'il faut rembourser la dette. C'est la répétition, au mot près, des discours et de la politique de la droite. La semaine dernière, le gouvernement a présenté pour le budget 2013 un plan d'austérité de 30 milliards d'économies, avec des augmentations d'impôts d'un côté et des restrictions dans les dépenses publiques de l'autre. C'est un plan de rigueur qui n'a rien à envier à ceux de Sarkozy-Fillon. Et tout l'art du gouvernement consiste à faire passer des attaques contre les travailleurs pour une politique de gauche. Hérault, en mentor professionnel, a déclaré que 9 Français sur 10 ne sont pas concernés par les nouvelles mesures concernant l'impôt sur le revenu. Sauf que les 3/4 des contribuables verront leur impôt sur le revenu augmenter par le gel du barème qui a été décidé par le gouvernement précédent et que les socialistes maintiennent. Hérault n'a pas menti, puisqu'il ne parlait que des nouvelles mesures. Il s'est juste un peu arrangé avec la réalité. Arrangement avec la réalité aussi, quand il a omis d'annoncer que pour boucler le budget de la sécurité sociale, la redevance télé sera augmentée de 4 euros et qu'il y aura une nouvelle taxe de 0,15% pour tous les retraités imposables, les mêmes retraités dont il disait qu'ils ne seraient pas touchés. Alors oui, les impôts augmenteront, et pas que pour les riches. L'augmentation du prix du tabac et des bières, qui rapportera 4 à 5 fois plus que la fameuse taxe de 75% sur la tranche de revenus qui dépasse le 1 million d'euros, sont là pour nous le rappeler tous les jours. Quant aux restrictions qui seront faites sur les hôpitaux, les crèches, l'école, sur les transports, les prestations sociales, bien sûr qu'elles affecteront en premier lieu les familles populaires. Sans parler des travailleurs de la fonction publique qui verront encore leur salaire bloqué. Le gouvernement monte en épingle l'augmentation des impôts des plus riches. C'est de l'enfumage. Bien sûr, la droite et la bourgeoisie crient à la spoliation, mais c'est le cinéma politicien. Que Bernard Arnault, la première fortune du pays, menace de prendre la nationalité belge pour échapper au fisc, témoigne surtout de son arrogance et de son ingratitude vis-à-vis de politiques qui se sont toujours très bien occupés de ses affaires. C'est Fabius qui lui a mis le pied à l'étrier dans les années 1980 en lui permettant de racheter pour 1 franc symbolique l'ex-empire Boussac et le petit bijou que représentait la marque Dior. Eh bien oui, la grande bourgeoisie n'a même pas la reconnaissance du ventre. Elle est habituée à ce qu'on la serve. Et il ne faut surtout rien lui demander. Au fond, la provocation d'Arnault a un avantage pour Hollande. Elle fait passer la taxation de 75% pour un geste de gauche. Et même si cette mesure ne rapportera presque rien aux caisses de l'État, elle excite les ténors de la droite, et c'est bien la seule mesure qui peut faire illusion. Car souvenez-vous que la tranche d'impôt sur le revenu que le gouvernement relève aujourd'hui à 45% était de 48% il n'y a pas si longtemps sous Raffarin et de 60% sous Giscard. Quant à l'impôt sur les sociétés que le gouvernement maintient à 30% pour les grandes entreprises, il était de 50% sous Giscard. Alors, que la grande réforme fiscale de la gauche soit en deçà de ce qui existait sous Giscard montre que la gauche est tombée bien bas. Mais cela n'empêche pas le patronat d'attaquer le gouvernement, d'autant plus facilement qu'il est de gauche, et que le patronat, petit et grand, sait qu'il sera relayé par la droite dans l'opposition. Laurence Parisot, cette semaine, a poussé des hauts cris en dénonçant le racisme anti-patron. Et les grands médias font défiler économistes et experts en tout genre pour dénoncer le danger qu'il y aurait à taxer davantage les entreprises et leurs propriétaires. Voyez de quelle complaisance a bénéficié la fronde qui s'est manifestée sur Internet sous le nom de pigeon. Oh, ces patrons de start-up, en particulier de l'informatique, ne sont certainement pas les grands fauves du capitalisme. Ce ne sont pas les actionnaires principaux des entreprises du CAC 40. Mais ils ne sont pas vraiment à plaindre, ces patrons qui gagnent leur vie en créant des entreprises et en les revendant avec un bénéfice confortable. Le journal Libération d'aujourd'hui en cite trois. Deux qui viennent de revendre leur entreprise, respectivement pour 70 et 182 millions. Et un troisième, plus malin, qui avant de revendre la sienne à 475 millions, a eu la sagesse de s'installer en Suisse. Eh bien, le gouvernement envisageait simplement de taxer la plus-value réalisée sur ces opérations au même niveau que l'impôt sur le revenu des salariés. Et tout ce beau monde d'entrepreneurs de pétitionner contre cette injustice. Eh bien, il n'a pas fallu longtemps, à peine quelques jours, pour que le gouvernement craque et recule piteusement. Mercredi, à l'Assemblée nationale, Moscovici, le ministre de l'économie a déclaré « Vous ne nous prendrez pas en défaut en matière d'esprit d'entreprise ». Jeudi, il a annoncé, au lieu de la hausse prévue, une exonération totale de la taxe si la plus-value réalisée sur la cession d'entreprise était réinvestie. Eh bien, le gouvernement ne pouvait pas s'aplatir davantage. J'ai prévenu dans la campagne présidentielle que la perspective d'un bon gouvernement de gauche était un leurre pour les travailleurs. Nous avons dit et répété, je cite, « Au fur et à mesure que la crise s'aggrave, la férocité de la bourgeoisie grandit et il y a de moins en moins de place pour un bon gouvernement de gauche qui, au moins partiellement, protégerait les travailleurs. Il n'y aura que des gouvernements de combat de la bourgeoisie. » Eh bien, ce gouvernement de combat porte aujourd'hui l'étiquette socialiste. Hollande lui-même a parlé de budget de combat. Eh bien oui, c'est un budget de combat, mais un combat contre les travailleurs à qui il veut faire payer la crise. Alors ce n'est pas parce que ce gouvernement est estampillé socialiste que les travailleurs doivent se laisser faire. Hollande ne fait que mettre ses pas dans ceux de Sarkozy. Oui, on peut parler de continuité. Regardez ce qui se passe avec le traité budgétaire européen, qui consiste en substance à inscrire dans la loi l'obligation pour tous les États d'Europe de ne pas dépasser un certain niveau de déficit. C'est Sarkozy qui a voulu et qui a négocié avec Merkel ce traité, mais c'est Hollande qui termine le boulot. Sans en avoir changé une virgule, Hollande demande au Parlement de le ratifier, alors même qu'il a fait toute sa campagne contre ce traité. Il est assez cocasse de voir aujourd'hui les socialistes, qui n'ont eu de cesse de dénoncer la règle d'or, en vanter les mérites, aussi bien que ne le faisaient Fillon et ses amis. La situation est d'autant plus comique que la droite apparaît dans cette affaire comme la meilleure alliée de Hollande, puisque dans son écrasante majorité, elle s'apprête à voter en faveur du traité Sarkozy-Hollande. À gauche, au contraire, cette ratification divise, jusqu'au sein même du Parti socialiste. Pour certains députés socialistes, le reniement est trop gros, et pour préserver leur carrière, ils préfèrent s'abstenir, voire voter contre ce traité. Quant aux écologistes, ils se préparent à voter contre, ce qui impose à ces deux ministres cramponnés à leur fauteuil une gymnastique un peu compliquée. Et après cela, ces gens-là nous expliqueront que la politique n'est pas une question d'opportunisme ni de carrière personnelle, mais un pur combat d'idées. Quant à Mélenchon et le Parti communiste, ils sont partis en guerre contre ce traité. Ils mènent depuis la rentrée une intense campagne pour dénoncer l'austérité à perpétuité et la perte de souveraineté nationale. Mais en quoi l'État français, tout national qu'il est, a-t-il protégé ou servi les intérêts des travailleurs ? Et comme s'il fallait ce traité pour que l'austérité soit imposée, cela fait plus de 4 ans que tous les gouvernements européens étranglent leurs peuples, en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie, ici en France, avec le gouvernement Sarkozy-Fillon. Et pour concocter leur plan drastique, Hollande et Euro n'ont pas eu besoin des conseils de Merkel ni des prescriptions d'un traité européen qui, de toute façon, n'est pas encore rentré en application. Quant au projet de revenir à l'équilibre en 2017, c'est-à-dire à zéro déficit, ce n'est absolument pas une exigence du traité, c'est une initiative franco-française, très originale, du gouvernement Hollande. Il n'y a bien sûr rien de bon pour les travailleurs dans ce traité. Comme tous ceux qui ont jalonné la construction européenne, ce traité répond aux desiderata des financiers et du grand capital. Et si nous avions à le voter, nous voterions contre. Mais laissez croire que l'austérité et les coups qui nous tombent dessus viennent de Bruxelles, de l'Europe ou de Merkel est une diversion. Mélenchon et les dirigeants du Parti communiste ont expliqué que la manifestation organisée dimanche dernier n'était pas une manifestation anti-Hollande. Mais qui vient de décider les hausses d'impôts si ce n'est Hollande ? C'est Hollande qui vient d'imposer de nouvelles privations aux classes populaires. Alors qu'est-ce que c'est que ce radicalisme qui dédouane les responsables que l'on a en face de nous ? Ce n'est pas pour rien que Mélenchon, comme le Parti communiste, flanqué de quelques autres, ont choisi pour cible de la première manifestation depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, le traité européen. C'est le terrain sur lequel il gêne le moins le gouvernement, parce qu'il est assuré d'avoir la majorité au Parlement, ne serait-ce que grâce aux voix de la droite. Et surtout, le mot d'ordre de se mobiliser pour un simple référendum ne pouvait pas toucher le monde du travail, et encore moins lui donner les objectifs et les moyens de se battre. Mais ce n'est pas le but de Mélenchon, ni du Parti communiste. Leur seule préoccupation est de canaliser à leur profit les déçus du socialisme, ceux qui ont été assez naïfs pour croire Hollande et les siens pendant la campagne et qui aujourd'hui se sentent floués. Mélenchon ne s'en cache d'ailleurs pas. Son ambition est, comme il dit, d'offrir une alternative à gauche ou, pour le dire plus vulgairement, de prendre la place de l'équipe au pouvoir dès qu'elle se sera déconsidérée et ne pourra plus servir à la bourgeoisie. Quant au Parti communiste, comme le répètent ses dirigeants, il ne veut pas être tenu pour responsable de l'échec du gouvernement de gauche, mais il veut montrer qu'il a une certaine capacité de mobilisation. En d'autres termes, sa posture d'opposant n'est qu'une offre de service déguisée. Tout le débat à propos de ce traité est un faux débat, une tromperie pour les travailleurs. D'un côté, il y a les défenseurs du traité, les tenants de l'orthodoxie budgétaire, de la réduction des déficits, qui brandissent l'endettement de l'État pour justifier l'austérité. De l'autre, les opposants au traité, qui prônent un niveau plus important de déficit et d'endettement au nom de la politique de relance. À les croire, il y aurait d'un côté une politique libérale pro-patronale et de l'autre, la vraie politique de gauche favorable aux travailleurs. Dans la réalité, ces deux politiques coexistent, mais surtout, aucune de ces politiques ne représente les intérêts des travailleurs. Car le problème des travailleurs n'est pas le montant du déficit budgétaire, mais qui le paye ? Les classes pauvres ou la bourgeoisie ? Si le gouvernement pense qu'il est urgent et impératif de rembourser la dette, eh bien qu'il le fasse. Mais en demandant à ceux qui l'ont contracté de payer, Parce que cette dette, eh bien, elle a été faite au profit des banquiers, des entreprises capitalistes, qui ont eu droit à des subventions en tout genre. Pour sauver la filière automobile et empêcher les licenciements, les groupes de l'automobile ont eu droit à des milliards. Avec le succès que l'on sait aujourd'hui quand on constate avec quelle violence le groupe PSA tranche dans les effectifs. Et puis il y a eu aussi les cadeaux fiscaux que Sarkozy a fait aux plus riches. Puisque le gouvernement nous dit que la dette et les déficits sont devenus insoutenables, eh bien qu'il demande à ceux qui en ont profité de rembourser. Et ce n'est quand même pas nous qui allons effacer la dette du patronat. Alors oui, que l'on supprime toute aide, toute subvention, tout dégrèvement à la classe capitaliste et le budget sera largement bénéficiaire. Oui à la politique d'austérité, mais contre les seuls riches, que l'on impose l'austérité au grand patronat. Il n'y a pas qu'en matière budgétaire que la gauche s'inspire de la droite, de sa politique et de ses discours. Prenez les ministres de l'Intérieur. De droite ou de gauche, ils se suivent et ils se ressemblent tous. Manuel Valls se vante, comme Sarkozy, de vouloir faire carrière comme premier flic de France. Au cœur de l'été, Valls a multiplié, comme Sarkozy, les discours sécuritaires et les déplacements coup de poing, très médiatisés dans les zones urbaines dites « sensibles ». Cette semaine encore, il l'a fait à Grenoble, accompagné cette fois de Hollande. Alors que le Parti socialiste dénonçait la politique de la droite vis-à-vis des Roms, en réclamant une solution de relogement pour chaque camp démantelé, le gouvernement détruit et expulse, comme sous Sarkozy. Rien qu'entre mai et août, il y aurait eu 3000 expulsions de Roms. Peu importe que les Roms expulsés reviennent, et que leur nombre en France soit en fait constant depuis 20 ans, il s'agit de faire de la démagogie sécuritaire et xénophobe. En expulsant ces familles et en détruisant leurs quelques biens, caravanes ou tentes, Manuel Valls a eu le cynisme d'invoquer l'intérêt des Roms. Il a parlé même de devoir moral pour le militant de gauche qu'il est de mettre fin aux bidonvilles et aux conditions inhumaines de ces camps. Alors rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui, certains habitants se croient autorisés à détruire eux-mêmes un campement. En 1981 et en 1997, le Parti socialiste avait au moins régularisé quelques dizaines de milliers de sans-papiers qui vivaient et travaillaient en France depuis des années. Mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Valls ne veut pas faire moins que Hortefeux ou Guéant, il expulsera autant que ses prédécesseurs. Quant au droit de vote des étrangers aux élections locales, il figurait au programme du candidat Mitterrand en 1981, dans celui de la gauche plurielle en 1997 et dans celui de Hollande en 2012. Oh, la promesse est bien maigre. Le vote ne serait accordé qu'aux élections municipales, après 5 ans de résidence en situation régulière, et sans possibilité d'être maire ou adjoint au maire. Eh bien, même là-dessus, il n'est même pas sûr que le Parti socialiste aille jusqu'au bout de son engagement. Valls, par exemple, milite ouvertement pour enterrer cette promesse. Eh bien, c'est honteux. Que des travailleurs qui enrichissent le pays payent des impôts et des cotisations n'aient pas le droit de vote à toutes les élections est un déni de droit. Mais ceux qui nous gouvernent peuvent refuser aux travailleurs immigrés le droit. Ceux qui nous gouvernent peuvent refuser aux travailleurs immigrés le droit de se faire entendre dans les élections, mais ils ne pourront pas empêcher ces travailleurs qui sont nombreux sur les chaînes de production, sur les chantiers et qui sont indispensables à la bonne marche de la société de s'exprimer dans les luttes futures de la classe ouvrière et ce sera autrement plus efficace. En imitant la droite, Le gouvernement va en faire le jeu. Mais ce ne sera pas l'UMP qui subit le discrédit de 10 années de pouvoir qui tirera les marrons du feu. Ce sera Le Pen, forte déjà des bons résultats du Front National aux élections présidentielles et législatives. Le Pen espère bien en tirer profit pour devenir la chef de file de l'opposition. Y parviendra-t-elle ? L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que ce courant qu'elle incarne représente un poison pour les travailleurs. Les Le Pen, père et fille, ont fait des préjugés les plus réactionnaires contre les étrangers, les musulmans, les Roms, les chômeurs, bref, tout ce qui peut diviser les travailleurs, leur fonds de commerce. Même sans qu'ils soient au pouvoir, le Front National pèse sur la vie politique. On le voyait par la politique des Sarkozy, Guéant et Hortefeux. On le voit dans les propos orduriers d'un Copé qui stigmatise le racisme anti-blanc. Mais la politique de Hollande et de Valls porte aussi l'influence de Le Pen. Dans le domaine économique, il n'y a pas à s'étonner que le gouvernement Hollande soit dans la continuité de Sarkozy. Dans cette société capitaliste dominée par l'argent et par le pouvoir des grands groupes financiers, les gouvernements sont et ne peuvent être que des conseils d'administration des intérêts de la bourgeoisie. Et ce n'est pas seulement une question de courage des hommes politiques, ni même de lien personnel avec la classe capitaliste. C'est tout l'appareil d'État, toute la hiérarchie des hauts fonctionnaires qui est profondément liée à la grande bourgeoisie, formée et dressée pour être à son service. Mais sur les questions dites sociétales, les dirigeants socialistes se distinguent bien souvent par leur lâcheté et par leur veulerie. Car ce ne sont pas les pressions de la bourgeoisie qui forcent le gouvernement à chasser les Roms. Et on ne peut même pas dire que le droit de vote des immigrés la préoccupe particulièrement. Non, l'équipe socialiste recule vis-à-vis de leurs adversaires politiques de droite. Il suffit que les milieux réactionnaires donnent de la voix pour que la gauche bien-pensante s'aligne. Eh bien, c'est dire leur manque de courage et leur couardise. Les travailleurs doivent se battre sur leur terrain de classe. Préserver son emploi et son salaire est LA question vitale pour les travailleurs. La barre des 3 millions de chômeurs officiels vient d'être dépassée. Dans la réalité, il y a près de 5,5 millions de personnes sans emploi et sans salaire stable. Il n'y a pas un travailleur qui n'ait dans sa famille ou parmi ses proches quelqu'un qui se retrouve dans cette situation. Il n'y a pas un seul travailleur qui puisse être sûr d'être à l'abri du chômage. Aucune région, aucun département, aucune ville n'échappe à l'hémorragie. Les suppressions d'emplois sont programmées chez Air France, Carrefour, Peugeot, Technicolor, Sanofi, Conforama et bien d'autres encore. Et que fait le gouvernement ? Il laisse faire. Cette semaine, le couperet est tombé pour l'aciérie de Florange. Le PDG d'ArcelorMittal a confirmé qu'il fermera bien les deux hauts fourneaux. Quand bien même un expert a déclaré le site tout à fait viable, quand bien même le groupe a profité et profite encore d'une multitude de subventions, quand bien même Hollande et Montebourg ont supplié Mittal, il ne reviendra pas sur sa décision de fermer les hauts fourneaux de Florange. Et même si le gouvernement, avec Montebourg en première ligne, s'agite encore pour faire croire à un repreneur, de l'avis même des travailleurs de Florange, c'est illusoire. Sarkozy a fermé Gandrange, Hollande va fermer Florange. Sous la gauche comme sous la droite, le grand patronat fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, parce que le Parti socialiste lui laisse les mains libres. Les socialistes au pouvoir n'imaginent pas une seconde avoir une politique contraignante vis-à-vis du grand patronat. Ils ne veulent le forcer à rien, rien lui interdire. Ils ne veulent rien faire qui puisse le gêner. Alors, ils sont voués à l'impuissance. Mais c'est une impuissance choisie et voulue. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Oh, être contraignant vis-à-vis des travailleurs, ça, ils savent faire. Tout peut être imposé aux travailleurs. Leur formation, leur métier, leurs horaires. On peut imposer aux travailleurs de changer de poste, de ville, de région. Dans l'entreprise, c'est le règne de la contrainte. Interdiction de faire ceci, obligation de faire cela. Et on peut licencier les travailleurs, les priver de salaire, de ce qu'ils ont de plus précieux, quand bien même c'est toute leur vie qui en dépend. Eh bien, un gouvernement des travailleurs, au service des travailleurs, ferait l'inverse. Oui, un gouvernement dans le camp des travailleurs empêcherait la fermeture d'ArcelorMittal. Un gouvernement dans le camp des travailleurs pourrait interdire à Mittal de licencier et le forcer à garantir sur le site même les emplois et les salaires de tous, ouvriers et intérimaires compris, sous peine de supprimer toutes les subventions qu'il touche dans le pays. Il pourrait aussi forcer Mittal à continuer l'activité, sous peine de réquisition, parce qu'un gouvernement qui serait dans le camp des travailleurs pourrait décider d'exproprier Mittal, c'est-à-dire de réquisitionner le site pour continuer de le faire tourner. Dans cette période de crise, alors que les grands groupes comme ArcelorMittal, Peugeot Citroën, Sanofi, Unilever sont responsables du chômage et de la désolation de régions entières, il faut les empêcher de nuire. Il faut leur imposer une politique coercitive. Il faut les contraindre à prendre sur les profits pour sauver les emplois et verser des salaires. Pour cela, il faut contester le pouvoir qu'ils ont sur les entreprises. Il faut être prêt à contester le monopole de la propriété capitaliste. Il faut être prêt à exproprier pour de bon les grands groupes capitalistes et les banques, c'est-à-dire sans indemnité ni rachat. En ce qui concerne ArcelorMittal, Montebourg a rejeté catégoriquement toute idée de nationalisation. Eh bien, c'est une façon de se laver les mains par avance du sort des ouvriers de Florange. Et cela montre que les socialistes sont vendus corps et âme à la bourgeoisie. Oh, ce n'est pas nouveau. Et l'abandon par le Parti socialiste de l'idéal socialiste remonte à très loin. Mais faut-il rappeler que le courant socialiste est né de l'idée qu'il fallait enlever la propriété privée des entreprises des mains des capitalistes et la gérer collectivement? Faut-il rappeler que les premiers socialistes se sont battus pour démontrer qu'il était tout à fait possible de se passer de ce patronat parasite et que les travailleurs collectivement étaient bien plus capables d'organiser la production? Les communistes révolutionnaires que nous sommes ont toujours critiqué les nationalisations lorsqu'elles étaient faites, non pour s'attaquer à la bourgeoisie, mais pour venir à son secours, comme cela a été le cas sous De Gaulle après la guerre ou sous Mitterrand après 1981. Les nationalisations de Mitterrand ont sauvé la mise à pas mal d'actionnaires, à commencer justement par la nationalisation d'Usinor Sacylor, l'ancêtre d'ArcelorMittal, qui a permis à la dynastie Vandel de retirer ses capitaux d'un secteur frappé par la crise pour se reconvertir dans la finance et la spéculation. Alors, aux nationalisations qui rapportent aux capitalistes, nous avons toujours opposé l'expropriation, sans indemnité ni rachat. Mais aujourd'hui, Montebourg enterre l'idée même de nationaliser une entreprise privée que son propriétaire est en train de liquider. L'État n'a pas d'argent et l'État n'a jamais été un bon gestionnaire, a-t-il dit. Rajoutons que l'État ne sait ni produire ni vendre de l'acier. Il nous explique donc que l'État ne saurait pas faire. Mais ce n'est pas Mittal qui sait produire et vendre de l'acier. Ce sont les travailleurs. Tout ce que Mittal sait produire, lui, ce sont des profits. Tout ce que Mittal sait produire, ce sont des profits. En rentabilisant au maximum ses installations, en pressurant les travailleurs et en pillant toutes les subventions qu'il a pu. Et pourquoi faudrait-il racheter le site à Mittal? De l'aveu même des dirigeants, le site est secondaire dans l'empire d'acier d'ArcelorMittal. Les actionnaires en ont tiré des profits colossaux pendant des années. Eh bien, cela devrait suffire. Montebourg et ses amis ont renié depuis bien longtemps l'idéal socialiste. Mais tant que le capitalisme dominera, avec son cortège d'inégalités, d'injustices et de ravages, ces idées vivront. On le voit dans la crise. Les capitalistes sont des irresponsables. On ne peut pas les laisser diriger l'économie. Ils l'emmènent dans le mur. Les exproprier est une nécessité. Personne ne maîtrise la crise actuelle de l'économie capitaliste. Ni les capitalistes eux-mêmes, ni les banquiers, et encore moins leurs serviteurs, fussent-ils dirigeants d'État. Ils le savent eux-mêmes, et leurs discours rassurants à l'attention des populations ne sont que rideaux de fumée. La crise a déclenché un sauve-qui-peut général. Le capitalisme est une guerre économique permanente, mais la crise la porte à un niveau sans précédent. Ce qui est une catastrophe pour les populations est en même temps une aubaine pour les groupes capitalistes les plus puissants, qui en profitent pour avaler leurs concurrents et pour s'agrandir. C'est la guerre entre capitalistes d'un même secteur, entre donneurs d'ordre et sous-traitants, entre agriculteurs et grandes distributions. Une guerre où les gros mangent les petits. Dans cette jungle économique, chacun se bat pour sauver sa peau au détriment des autres. Mais dans cette guerre de tous contre tous, c'est la guerre de classe qui prédomine. Parce que c'est en dernier ressort sur le dos des travailleurs qu'ils peuvent tous, gros comme petits, récupérer les profits qu'ils perdent dans la guerre économique. Au bout du bout, il y a un intérimaire ou un CDD que l'on peut renvoyer, des travailleurs que l'on peut mettre sous pression pour qu'ils ne comptent pas leurs heures, pour qu'ils acceptent n'importe quel horaire, pour qu'ils fassent le travail de deux. Et quand cela ne suffit pas aux patrons pour être compétitifs, comme ils disent, ils taillent dans le vif, réduisent les effectifs ou ferment une usine. Cette compétitivité dont on nous rebat les oreilles est l'expression de la concurrence, de la guerre entre capitalistes pour se disputer des marchés et le profit qui va avec. Mais cette guerre, ils l'amènent avec la peau des travailleurs. Eh bien, dans cette guerre, les travailleurs n'ont pas à servir de chair à canon. Ils doivent mener leur propre combat pour défendre leur emploi et le pouvoir d'achat de leur salaire. La compétitivité a toujours été l'argument massu du patronat, généralement pour abaisser les salaires directs ou ces salaires indirects que sont les cotisations sociales. Ces jours-ci, le gouvernement a repris à son compte le discours patronal et il se creuse pour savoir comment il va alléger de 40 milliards la facture des patrons en les transférant sur d'autres impôts. La question qui se pose est de savoir comment, sous quelle forme, le gouvernement nous volera ces 40 milliards. Mais il n'y a aucun doute à avoir. Le gouvernement veut les prendre et il les prendra, sauf si les travailleurs, collectivement, par leur lutte, en décident autrement. Si les socialistes jouent la comédie de la conférence sociale et de la négociation entre partenaires sociaux, s'ils nous amusent avec le conte de fées du gagnant-gagnant, c'est que dans cette lutte de classe, ils ne veulent et ne peuvent pas être dans le camp des travailleurs parce qu'ils veulent servir le patronat. Alors, nous devons en être conscients. Rien ne permet d'espérer que la crise soit en train de se résorber. Peut-être même, le pire est-il encore à venir et nous n'avons encore rien vu. Dans cette guerre, si nous ne voulons pas être piétinés, si nous ne voulons pas voir notre salaire ou notre retraite divisé par deux comme en Grèce, si nous ne voulons pas nous retrouver sans boulot et à devoir aller toujours plus nombreux à la soupe populaire, comme en Grèce ou en Espagne, il va falloir se battre avec nos propres armes de classe, les grèves et les manifestations. dans cette période de crise où il y a 1000 chômeurs supplémentaires chaque jour et où, lorsqu'on est poussé au chômage, on sait que l'on risque d'y rester longtemps, imposer l'interdiction des licenciements est une mesure vitale, la seule mesure efficace pour stopper l'hémorragie. Même si la production industrielle est en recul, la majorité des usines continuent de tourner. Du travail, il y en a. La seule politique juste, du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, est d'imposer que ce travail soit réparti entre tous, sans diminution de salaire. Mon camarade Jean-Pierre vient de montrer, en parlant de Peugeot Citroën, à quel point le choix de répartir le travail entre tous, sans licencier personne, est tout à fait possible à l'intérieur même du groupe. Alors bien sûr, répartir le travail entre tous, cela fera baisser la rentabilité des groupes capitalistes. Cela leur coûtera de l'argent et cela leur posera quelques problèmes. Et alors, quand les travailleurs se retrouvent au chômage, ils ne font pas que perdre de l'argent. C'est toute leur vie qui est bouleversée. La maison, l'appartement qu'on ne peut plus payer, c'est la spirale infernale de l'endettement. Les études des enfants qui sont remises en cause, c'est une question de survie quotidienne. Alors oui, c'est aux capitalistes d'assumer les pertes sur leurs profits et au besoin sur leur fortune privée. C'est aux groupes richissimes qui dorment souvent sur des montagnes de cash et qui ont des réserves de trouver l'argent pour préserver les emplois. Et si cela ne suffit pas, que les actionnaires payent. Quand les affaires marchaient bien, ce ne sont pas les travailleurs qui se sont enrichis, mais les grands actionnaires. Ils ont accumulé des fortunes au travers de l'exploitation. Ces fortunes, elles existent. Elles sont dans des coffres forts belges ou suisses. Elles sont transformées en lingots d'or, en yachts de luxe ou en maisons secondaires, mais elles existent. Eh bien, il faut puiser dedans pour maintenir les emplois et les salaires. Les travailleurs ont un droit sur cet argent. C'est eux qui l'ont sué. Il est normal, légitime, que dans cette période de crise, ils servent à leur assurer un salaire. Et comment ne pas parler ici de la politique des confédérations syndicales ? Je parle des directions centrales, des appareils syndicaux, pas des militants des syndicats qui mènent sur le terrain un combat difficile et parfois désespéré contre des licenciements ou contre la fermeture de leur usine. Leur combat est d'autant plus difficile qu'il est mené entreprise par entreprise, isolées les unes des autres, et surtout dans un rapport de force défavorable aux travailleurs, avec d'un côté un patron fort de ses capitaux, voire une multinationale, et de l'autre des travailleurs dont le patron n'a plus besoin et dont il veut se débarrasser. Eh bien, les confédérations syndicales, même la plus combative, n'ont pas de plan de lutte, de stratégie s'adressant à l'ensemble des travailleurs. Oh, un tel plan de lutte, même avec les objectifs indispensables, ne suffit pas pour redonner confiance aux travailleurs au point de les mobiliser. Les chefs syndicaux le disent et le répètent, on ne peut pas déclencher de grandes luttes en appuyant sur un bouton. C'est incontestable. Mais cela ne doit pas justifier l'absence de politique. Les directions syndicales pourraient et devraient préparer les luttes futures, y préparer les travailleurs politiquement, moralement. C'est en étant ferme et déterminée elle-même qu'elle pourrait redonner confiance aux travailleurs. À une petite échelle, et avec des limites étroites sur lesquelles je ne reviendrai pas, les confédérations ont montré en 1995 contre Juppé et en 2009 contre Sarkozy qu'elles avaient les moyens de mobiliser les travailleurs, qu'elles savaient le faire, étape après étape, quand elles le voulaient. Aujourd'hui, il n'y a rien de tel. Alors que la crise est autrement plus grave et que la nécessité d'offrir des perspectives aux travailleurs est indispensable. Non seulement la manifestation du 9 octobre, la première en cette rentrée sociale, n'est appelée que par la CGT, sans que les deux autres grandes confédérations ne s'y associent, mais il y a en plus des appels à des manifestations différentes, par exemple pour les retraités, ou pour les cheminots. On organise la dispersion avant même qu'il y ait réellement un mouvement. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi la teneur du langage des dirigeants syndicaux qui reprennent le discours des patrons sur la compétitivité, par exemple, et autres balivernes. Que le gouvernement reprenne les arguments du patronat, c'est dans l'ordre des choses. Mais les dirigeants syndicaux qui le font montrent clairement qu'ils ne sont pas dans le camp des travailleurs, mais dans celui de la classe capitaliste. La direction de la CGT elle-même appelle à manifester le 9 octobre pour une nouvelle politique industrielle. C'est un langage à double sens, choisi pour donner aux travailleurs l'illusion qu'ils sont appelés à manifester pour sauver leur emploi, mais qui peut servir aussi au gouvernement pour justifier les subventions versées au patronat au prétexte d'aider à l'investissement industriel. Cette politique industrielle-là, tous les gouvernements l'ont pratiquée, mais plus ils déversent de milliards en subventions de toutes sortes, plus la courbe du chômage monte. Et il ne peut pas en être autrement tant que l'économie est en crise, que les marchés ne s'élargissent pas suffisamment pour assurer aux capitalistes le taux de profit qu'ils exigent. Tant que la spéculation financière rapporte plus aux grands groupes que la production industrielle, l'argent ira à la spéculation, y compris l'argent donné par l'État. Et cela continuera ainsi, à moins d'obliger les capitalistes à investir par la coercition, ce qu'aucun gouvernement n'envisage sérieusement. Alors cette réalité-là, les travailleurs la connaissent. Alors ce n'est pas brandir comme mot d'ordre la politique industrielle. Brandir comme mot d'ordre la politique industrielle n'est pas seulement faux, mais cela revient à démobiliser les travailleurs et même les militants syndicaux eux-mêmes. Avancer des objectifs simples, clairs, dont tous les travailleurs comprennent qu'il s'agit de leur vie, de la vie de leur famille, ne suffit pas en soi pour entraîner la mobilisation. Mais n'agiter que des abstractions comme une nouvelle politique industrielle, dont personne ne sait ce qu'elle signifie, ni en quoi elle protège les travailleurs, est en revanche un moyen de les démobiliser. Pour notre part, Lutte ouvrière appelle ses militants à tout faire pour convaincre leurs camarades de travail à venir nombreux le 9 octobre et à défendre les revendications qui leur tiennent à cœur, à faire entendre leurs exigences vitales, comme l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous, la garantie du salaire contre l'inflation par l'échelle mobile des salaires, la défense et le développement des services publics. Même si cette manifestation est un succès, elle ne changera pas le rapport de force entre les travailleurs et le patronat. Pour le changer, il faudra que l'ensemble des travailleurs soient mobilisés, qu'ils fassent preuve d'une combativité et d'une détermination telle que la peur passe dans le camp de la bourgeoisie. Mais le 9 octobre doit être une étape, un premier pas, qui redonne confiance à la fraction des travailleurs décidés à ne pas se laisser faire, y compris sous un gouvernement socialiste. Cette manifestation sera au moins la démonstration qu'il y a au sein de la classe ouvrière une minorité qui n'est pour le moment peut-être pas à même d'entraîner derrière elle la majorité du monde du travail, mais qui, en tout cas, sait que le seul choix pour les travailleurs, s'ils veulent défendre leurs conditions d'existence, c'est de se battre. Alors, ce que j'ai à dire aux militants de la classe ouvrière, aux militants syndicaux, comme à tant d'autres qui ne sont pas résignés et qui souhaitent que le gros des troupes de la classe ouvrière se mette en branle, c'est ne vous laissez pas désarmer par le fait que le gouvernement qui vous porte des coups se réclame de la gauche. Combien de militants ouvriers, notamment ceux du Parti communiste, sont restés l'arme au pied sous Mitterrand puis sous Jospin et l'ont amèrement regretté par la suite? Et combien d'entre eux ont même cessé d'agir? Eh bien, il ne faut pas recommencer cela. Notre avenir, notre sort ne dépend pas des gouvernements, mais de nous-mêmes, de notre force collective et de nos mobilisations. rien ne viendra d'en haut. Pour se protéger, pour défendre notre emploi, notre salaire, nos droits vitaux, nous devons nous défendre nous-mêmes, nous regrouper, nous organiser, faire jouer notre force collective. Nous ne sommes pas démunis. Nous avons la force du nombre. Nous sommes indispensables au fonctionnement de l'économie. Sans travailleurs, rien ne peut se faire. L'argent ne rentre pas, il n'y a pas de profit pour la bourgeoisie. C'est nos divisions, notre manque de conscience collective, notre faible combativité qui fait la force du patronat. Au pied du mur, les travailleurs essayent de se défendre. Les travailleurs de Fralib à Gémenos se démènent depuis bientôt 2 ans contre les licenciements. C'est aussi le cas des travailleurs de Ford à Blanquefort. C'est le cas depuis plusieurs mois des travailleurs de Peugeot. Chacun se bat avec un seul et même objectif, préserver leur emploi. Eh bien, pour gagner, pour obtenir la garantie de conserver son emploi, il faut que le combat des Fralib, des PSA, des Ford, des Arcelor devienne un seul et même combat, qu'il devienne notre combat à tous. On ne gagnera qu'en s'y mettant tous ensemble. Il faut renouer avec les luttes collectives, amples, massives, débordantes. Renouer avec les meilleures traditions du mouvement ouvrier. Celles qui se sont exprimées dans les manifestations et les grèves générales de juin 1936 ou de mai 1968. Beaucoup n'y croient plus et disent que ces luttes font partie du passé, que les travailleurs ne veulent plus se battre, qu'ils ne peuvent plus se battre. Mais combien sommes-nous à en défendre la perspective? Combien y a-t-il de militants pour aider les travailleurs à s'organiser, à s'unir autour de leur objectif de classe? Il manque de partout des militants pour entraîner les travailleurs et pour rappeler aussi que les travailleurs ont combattu dans des conditions bien plus difficiles et ont souvent réussi à faire reculer le patronat. Regardons les mineurs de Marikana en Afrique du Sud. Regardons avec quelle détermination ils se battent depuis plusieurs semaines, malgré une répression féroce. La fusillade du 16 août a fait à elle seule 34 morts. Elle n'a pas brisé la détermination des grévistes. À la violence de la répression s'ajoute pourtant l'amertume que cette fusillade a été commandée et exécutée, non par la police raciste du temps de l'apartheid, mais par celle du régime né de la chute de l'apartheid. Abandonnés en plus par les syndicats, les mineurs auraient eu bien des raisons de baisser les bras. Mais ils ont continué et la grève est devenue contagieuse. Elle s'est étendue à des dizaines de milliers de mineurs d'un bout à l'autre du pays. Et la semaine dernière, après 6 semaines de grève, les mineurs de Marikana ont fini par arracher une augmentation de salaire immédiate de 11 à 22%. Oui, seuls contre tous, ils ont réussi à faire plier un géant du capitalisme. La lutte des exploités n'a jamais été facile. Mais le plus grave pour l'avenir est surtout qu'il n'existe pas de parti qui représente clairement et jusqu'au bout les intérêts de classe du monde du travail. On voit bien que le parti qui porte encore l'étiquette socialiste est un parti bourgeois comme les autres. Quant aux partis comme celui de Mélenchon ou comme le Parti communiste qui prétendent représenter une alternative par rapport au Parti socialiste, ils défendent des politiques guère différentes parce qu'ils se placent tous dans le cadre de l'économie et de la société capitaliste en prétendant savoir mieux la gérer que les autres. Ils ont abandonné la perspective de combattre cette organisation économique pour la renverser. Et s'ils peuvent avoir un langage un peu plus radical dans l'opposition, lorsqu'ils seront au gouvernement, ils feront comme le Parti socialiste ce que la grande bourgeoisie leur demandera de faire. Ce n'est pas un raisonnement sur l'avenir, puisque le Parti communiste a déjà participé au gouvernement à plusieurs reprises et il s'est toujours aligné sur la politique du Parti socialiste. Quant à Mélenchon, porte-voix du Front de Gauche, il a été, comme ses amis de la direction du Parti Socialiste, ministre. L'ambition de l'équipe qui l'entoure est certes de prendre la place de l'équipe qui gouverne, mais ce n'est pas pour renverser le système, c'est pour le servir. Alors oui, il manque un parti qui représente les intérêts politiques de la classe ouvrière et qui ne représente que ces intérêts-là. Ce parti doit avoir clairement pour objectif la prise de pouvoir par la classe ouvrière elle-même, par les organisations démocratiques construites et contrôlées par elle. Ce parti doit œuvrer pour l'expropriation de la bourgeoisie et pour l'avènement d'une société sans exploitation, sans classe, pour l'avènement d'une société communiste. Le règne de la bourgeoisie n'a pas d'avenir. On nous dit que les riches et les capitalistes sont indispensables, que ce sont eux qui créent les richesses et les emplois. Mais il faut toute la capacité de mensonge de la classe privilégiée, sa mainmise sur les médias, sur l'éducation, sur tous ceux qui forgent l'opinion publique pour faire des exploiteurs et des parasites une classe sociale indispensable. La bourgeoisie prospère de plus en plus du pillage des caisses de l'État et de la spéculation financière. Elle ne développe plus la production. Son économie crève parce qu'il y a trop d'argent, trop de richesses, trop de moyens pour les produire. L'abondance est là, à portée de main, mais c'est la misère, des privations sans fin pour la majeure partie de l'humanité. Bien d'autres que les communistes révolutionnaires dénoncent les folies du capitalisme financier, avec plus ou moins de sincérité. Pour beaucoup, ce n'est que discours démagogique de politiciens. Ceux qui sont de bonne foi vont jusqu'à redécouvrir Marx et à le citer à l'appui de leurs dénonciations. Mais même les plus sincères ne vont pas jusqu'au bout. Ils ne posent pas la seule question qui vaille : quelle force sociale a la capacité de mettre fin au capitalisme ? Marx n'était pas seulement un critique pénétrant de l'économie capitaliste, d'une toute autre valeur que l'armada d'économistes, chantre du caractère irremplaçable de l'économie capitaliste, même lorsqu'il se propose de la réformer ou de l'améliorer. Non, Marx était avant tout un révolutionnaire qui ne considérait pas la classe ouvrière comme une classe sociale à plaindre ou à sauver des conséquences désastreuses du capitalisme. Il voyait dans la classe ouvrière la seule force sociale capable de renverser le monde, de renverser ce monde. Ce sera déjà pas mal. L'apport principal de Marx pour son époque, comme pour les générations suivantes, a été cette capacité, justement, de voir dans la classe ouvrière la seule force révolutionnaire, au sens véritable, c'est-à-dire capable de transformer l'économie et la société de fond en comble. Et cette conviction a été la base de sa politique, pas seulement pendant les périodes d'explosion révolutionnaire, où c'était évident, mais aussi lors des périodes de recul, lorsque les travailleurs subissaient passivement les coups. Aujourd'hui, face au pouvoir du capitalisme prédateur, il n'y a pas d'autre alternative que le pouvoir de la classe ouvrière. C'est cette idée-là que nous défendons dans toute notre propagande. C'est sur cette idée-là que doit être basée toute notre politique. On nous traite de sectaires parce que nous ne voulons pas noyer ce parti pris fondamental dans une des nombreuses alliances ou coalitions de partis prétendument de gauche ou de la gauche de la gauche. Sectaires, nous ne le sommes pas, car nous ne refusons jamais de participer à des actions qui peuvent être un tant soit peu utiles pour la classe ouvrière, y compris aux côtés d'organisations politiques ou syndicales dont nous ne partageons pas les idées. Mais jamais au point de sacrifier nos idées, notre option politique fondamentale, sur l'autel d'une alliance éphémère avec des formations politiques ou d'hommes dont nous savons qu'ils ne sont pas dans le camp des travailleurs et qu'ils trahiront inévitablement. Il faut un parti ayant pour perspective la prise et l'exercice du pouvoir par la classe ouvrière Et ce parti n'est pas seulement nécessaire pour des situations révolutionnaires, c'est-à-dire pour une période où la classe ouvrière, dans son énorme majorité, a décidé à prendre son sort en main. Il est aussi nécessaire pour mener les combats d'aujourd'hui et de demain. Car face à la crise et à la guerre de plus en plus violente que mène la bourgeoisie contre les exploités, il faut opposer une politique qui arme les travailleurs et renforce leur position. Les dernières élections ont illustré à quel point le monde du travail est dispersé entre une multitude d'options qui recouvrent tout l'éventail politique. On sait que les idées de droite, voire d'extrême droite, sont présentes, y compris dans les rangs des travailleurs. Et on sait les préjugés qu'elles véhiculent, et même les plus stupides, les plus réactionnaires. Si la crise s'aggrave, les travailleurs seront confrontés à l'offensive de plus en plus violente du patronat, mais ils seront aussi confrontés à des problèmes politiques. Il n'est pas exclu que le Front National ou une autre force d'extrême droite aux prétentions fascistes en vienne à intervenir physiquement contre les étrangers, comme c'est déjà le cas en Grèce ou en Hongrie. Entre l'extrême droite et le mouvement ouvrier conscient, entre eux et nous, c'est une course de vitesse qui se joue. Mais si la classe ouvrière relève la tête, si elle rend les coups et offre des perspectives à toute la société, alors les millionnaires démagogues à la Le Pen seront ramenés au petit cercle des nostalgiques de l'Algérie coloniale, des nostalgiques de Vichy ou des catholiques intégristes, c'est-à-dire au petit cercle de familles dont ils n'auraient jamais dû sortir. Il faut un parti qui n'ait aucun lien avec le système existant, qui ne soumette pas sa politique à des préoccupations électorales ou à des alliances avec tel ou tel camp politique de la bourgeoisie. Il faut un parti que rien n'attache, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique, à l'ordre social existant, et qui non seulement ne craigne pas de mener jusqu'au bout le combat contre la classe capitaliste, mais qui ait au contraire explicitement cette volonté-là. Et il faut bien sûr que ce parti en soit un. C'est-à-dire qu'il regroupe un grand nombre de militants et qu'il soit présent dans tous les quartiers populaires, dans toutes les entreprises, dans tous les aspects de la vie sociale. Un tel parti ne pourra agir réellement et efficacement que si la classe ouvrière, dans sa grande majorité, a envie d'agir et de mener les luttes nécessaires. Car aucun parti ne peut remplacer l'action collective de millions de femmes et d'hommes. Mais le rôle de ce parti et de défendre des idées, une politique pour les travailleurs, de les populariser en permanence bien avant que les luttes s'engagent. Son rôle, c'est de s'opposer à toutes les variantes de la politique de la bourgeoisie, même celles qui se veulent de gauche, voire à la gauche de la gauche. Il ne sert à rien de déplorer l'absence d'un véritable parti communiste révolutionnaire. Il faut s'atteler à la tâche et il faut créer ce parti capable de mener, dans l'intérêt de la classe ouvrière et de la société, les combats d'aujourd'hui, mais aussi se préparer et s'organiser pour les grandes luttes de demain, pour changer la société de fond en comble et construire une société communiste. Les perspectives des travailleurs sont grandes, elles sont enthousiasmantes, à nous de les faire vivre parmi les travailleurs avant qu'elles ne deviennent réalité.